Jules Verne, Sans dessus-dessous, chapitre 4, dans lequel reparaissent de vieilles connaissances de nos jeunes lecteurs. Barbicane & Co., le président d'un cercle d'artilleurs. En vérité, que venaient faire des artilleurs dans une opération de ce genre? On va le voir. Est-il bien nécessaire de présenter officiellement M.P. Barbicane, président du Gun Club de Baltimore, et le capitaine Nicholl, et J.T. Maston, et Tom Hunter aux jambes de bois, et le fringant Bilsby, et le colonel Bloomsbury et leurs autres collègues? Non. Si ces bizarres personnages ont quelque 20 ans de plus depuis l'époque où l'attention du monde entier fut attirée sur eux, ils sont restés les mêmes, toujours aussi incomplets corporellement, mais toujours aussi bruyants, aussi audacieux, aussi emballés quand il s'agit de se lancer dans quelque aventure extraordinaire. Le temps n'a pas eu prise sur cette légion d'artilleurs à la retraite. Il les a respectés comme il respecte les canons hors d'usage qui meublent les musées des anciens arsenaux. Si le Gun Club comptait 1833 membres lors de sa fondation, il s'agit des personnes et non des membres, tels que bras ou jambes, dont la plupart d'entre eux étaient déjà privés. Si 30 575 correspondants s'énorgueillissaient du lien qui les rattachait au dit club, ces chiffres n'avaient point diminué. Au contraire, et même grâce à l'invraisemblable tentative qu'il avait faite pour établir une communication directe entre la Terre et la Lune, sa célébrité s'était accrue dans une proportion énorme. On n'a point oublié quel retentissement avait eu cette mémorable expérience qu'il convient de résumer en peu de lignes. Quelques années après la guerre de sécession, certains membres du Gun Club, ennuyés de leur oisiveté, s'étaient proposés d'envoyer un projectile jusqu'à la Lune au moyen d'une Columbiade monstre. Un canon long de 900 pieds, large de 9 à lame, avait été solennellement coulé à City Moon dans le sol de la presqu'île floridienne, puis chargé de 400 000 livres de fulmicoton. Lancé par ce canon, un obus cylindro-conique en aluminium s'était envolé vers l'astre des nuits sous la poussée de 6 milliards de litres de gaz. Après en avoir fait le tour par suite d'une déviation de sa trajectoire, il était retombé vers la Terre pour s'engouffrer dans le Pacifique par 27 degrés 7 minutes de latitude nord et 41 degrés 37 minutes de longitude ouest. C'était dans ces parages que la frégate Susquehanna de la Marine fédérale l'avait repêché à la surface de l'océan au grand profit de ses hôtes. Des hôtes en effet, deux membres du Gun Club, son président M.P. Barbicane et le capitaine Nicholl, accompagné d'un Français très connu pour ses audaces de casse-cou, avaient pris place dans ce wagon projectile. Tous trois étaient revenus de ce voyage sains et saufs. Mais si les deux Américains étaient toujours là, prêts à se risquer en quelque nouvelle aventure, le Français Michel Ardan n'y était plus. De retour en Europe, il avait fait fortune, paraît-il, ce qui ne laissa pas de surprendre bien des gens. Et maintenant, il plantait ses choux, il les mangeait, il les digérait même, s'il faut en croire les reporters les mieux informés. Après ce coup de tonnerre, M.P. Barbicane et Nicholl avaient vécu sur leur célébrité dans un repos relatif. Toujours impatients de grandes choses, ils rêvaient de quelque autre opération de ce genre. L'argent ne leur manquait pas. Il en restait de leur dernière affaire, près de 200 000 dollars sur les 5 millions et demi que leur avait fourni la souscription publique ouverte dans le Nouveau et l'Ancien Monde. En outre, rien qu'à s'exhiber à travers les États-Unis dans leurs projectiles d'aluminium, comme des phénomènes dans une cage, ils avaient encore réalisé de belles recettes et recueilli toute la gloire que peut comporter la plus exigeante des ambitions humaines. M.P. Barbicane et le capitaine Nicholl auraient donc pu se tenir tranquilles si l'ennui ne les eût rongés. Et c'est pour sortir de leur inaction, sans doute, qu'ils venaient d'acheter ce lot de régions arctiques. Et pourtant, qu'on ne l'oublie pas, si cette acquisition avait pu être faite au prix de 800 000 dollars et plus, c'est que Mrs. Evangelina Scorbitt avait mis dans l'affaire l'appoint qui lui manquait. Grâce à cette femme généreuse, l'Europe avait été vaincue par l'Amérique. Voici à quoi tenait cette générosité. Depuis leur retour, si le président Barbicane et le capitaine Nicholl jouissaient d'une incomparable célébrité, il était un homme qui en avait sa bonne part. On la devinait. Il s'agit de J.T. Maston, le bouillant secrétaire du Gun Club. N'était-ce pas à cet habile calculateur que l'on devait les formules mathématiques qui avaient permis de tenter la grande expérience citée plus haut? S'il n'avait pas accompagné ses deux collègues lors de leur voyage extraterrestre, ce n'était pas par peur, non d'un boulet, mais le digne artilleur, manchot du bras droit, était pourvu d'un crâne en gutta-percha, à la suite d'un de ces accidents trop communs à la guerre. Et vraiment, en le montrant aux Sélénites, c'eût été leur donner une piteuse idée des habitants de la Terre, dont la Lune, après tout, n'est que l'humble satellite. À son profond regret, J.T. Maston avait donc dû se résigner à ne point partir. Toutefois, il n'était pas resté oisif. Après avoir procédé à la construction d'un immense télescope qui fut dressé sur le sommet de Long's Peak, l'un des plus hauts sommets de la chaîne des montagnes rocheuses, il s'y était transporté de sa personne. Puis, dès que le projectile eut été signalé, décrivant sur le ciel sa majestueuse trajectoire, il n'avait plus quitté son poste d'observation. Là, devant l'oculaire du gigantesque instrument, il s'était donné pour tâche de chercher à suivre ses amis, dont le véhicule aérien filait à travers l'espace. On devait les croire à jamais perdus pour la Terre, les audacieux voyageurs. En effet, ne pouvait-on craindre que le projectile, maintenu dans une nouvelle orbite par l'attraction lunaire, fût astreint à graviter éternellement autour de l'astre des nuits comme un sous-satellite? Mais non. Après avoir fait le tour de la Lune, au lieu de l'atteindre, entraîné dans une chute progressivement accélérée, il était revenu vers notre sphéroïde avec une vitesse qui égalait 57 600 lieues à l'heure au moment où il s'engloutissait dans les abîmes de la mer. Heureusement, les masses liquides du Pacifique avaient amorti la chute qui avait eu pour témoin la frégate américaine Susquehanna. Aussitôt, la nouvelle en fut transmise à J.T. Maston. Le secrétaire du Gun Club revint en toute hâte de l'observatoire de Long's Peak afin d'opérer le sauvetage. Des sondages furent poursuivis dans les parages où s'était abîmé le projectile et le dévoué J.T. Maston n'hésita pas à revêtir l'habit du scaphandrier pour retrouver ses amis. En réalité, il n'aurait pas été nécessaire de se donner tant de peine. Le projectile d'aluminium, déplaçant une quantité d'eau supérieure à son propre poids, était remonté au niveau du Pacifique après avoir fait un superbe plongeon. Et c'est dans ces conditions que le président Barbicane, le capitaine Nicholl et Michel Ardan furent rencontrés à la surface de l'océan. Ils jouaient au domino dans leur prison flottante. Maintenant, pour en revenir à J.T. Maston, il faut dire que la part prise par lui à ses extraordinaires aventures l'avait mis très en relief. Certes, J.T. Maston n'était pas beau, avec son crâne postiche et son avant-bras droit emmanché d'un crochet métallique. Il n'était pas jeune non plus, ayant 58 ans sonné et carillonné à l'époque où commence ce récit. Mais l'originalité de son caractère, la vivacité de son intelligence, le feu qui animait son regard, l'ardeur qu'il apportait en toutes choses, en avaient fait un type idéal aux yeux de Mrs. Evangelina Scorbitt. Enfin, son cerveau, soigneusement emmagasiné sous sa calotte de gutta-percha, était intact et il passait encore, à juste titre, pour un des plus remarquables calculateurs de son temps. Or, Mrs. Evangelina Scorbitt, bien que le moindre calcul lui donnât la migraine, avait du goût pour les mathématiciens si elle n'en avait pas pour les mathématiques. Elle les considérait comme des êtres d'une espèce particulière et supérieure. Songez donc, des têtes où les X ballottent comme des noix dans un sac, des cerveaux qui se jouent avec les signes algébriques, des mains qui jonglent avec les intégrales triples comme un équilibriste avec ses verres et ses bouteilles, des intelligences qui comprennent quelque chose à des formules de ce genre, intégrale triple de la fonction phi de la variable x, y, z fois l'élément infinitésimal de volume dx, dy, dz. Oui, ces savants lui paraissaient dignes de toutes les admirations et bien faits pour qu'une femme se sentît attirée vers eux, proportionnellement aux masses et en raison inverse du carré des distances. Et précisément, J.T. Maston était assez corpulent pour exercer sur elle une attraction irrésistible, et quant à la distance, elle serait absolument nulle s'ils pouvaient jamais être l'un à l'autre. Cela, nous l'avouerons, ne laissait pas d'inquiéter le secrétaire du Gun Club, qui n'avait jamais cherché le bonheur dans des unions si étroites. D'ailleurs, Mrs. Evangelina Scorbitt n'était plus de la première jeunesse, ni même de la seconde. Avec ses 45 ans, ses cheveux plaqués sur ses tempes comme une étoffe teinte et reteinte, sa bouche, trop meublée de dents trop longues, dont elle n'avait pas perdu une seule, sa taille sans profil, sa démarche sans grâce. Bref, l'apparence d'une vieille fille, bien qu'elle eût été mariée quelques années à peine, il est vrai. Mais c'était une excellente personne, à laquelle rien n'aurait manqué des joies terrestres si elle avait pu se faire annoncer dans les salons de Baltimore sous le nom de Mrs. J.T. Maston. La fortune de cette veuve était très considérable. Non qu'elle fût riche comme les Gould, comme les Mackay, les Vanderbilt, les Gordon Bennett, dont la fortune dépasse le milliard, et qui pourrait faire l'aumône à un Rothschild. Non qu'elle possédât 300 millions, comme Mrs. Moses Carper, 200 millions comme Mrs. Stewart, 80 millions comme Mrs. Crocker, trois veuves, qu'on se le dise, ni qu'elle fût riche comme Mrs. Hammersley, Mrs. Ellie Green, Mrs. Maffitt, Mrs. Marshall, Mrs. Para Stevens, Mrs. Mintry et quelques autres. Toutefois, elle aurait eu le droit de prendre place à ce mémorable festin de Fifth Avenue Hotel à New York où l'on admettait que des convives 5 fois millionnaires. En réalité, Mrs. Evangelina Scorbitt disposait de 4 bons millions de dollars, soit 20 millions de francs, qui lui venaient de John P. Scorbitt, enrichi dans le double commerce des articles de mode et des porcs salés. Eh bien, cette fortune, la généreuse veuve eût été heureuse de l'utiliser au profit de J.T. Maston, auquel elle apporterait un trésor de tendresse plus inépuisable encore. Et, en attendant, sur la demande de J.T. Maston, Mrs. Evangelina Scorbitt avait volontiers consenti à mettre quelques centaines de mille dollars dans l'affaire de la North Polar Practical Association, sans même savoir ce dont il s'agissait. Il est vrai, avec J.T. Maston, elle était assurée que l'œuvre ne pouvait être que grandiose, sublime, surhumaine. Le passé du secrétaire du Gun Club lui répondait de l'avenir. On juge si, après l'adjudication, lorsque la déclaration de Command lui eut appris que le conseil d'administration de la nouvelle société allait être présidé par le président du Gun Club, sous la raison sociale Barbicane & Co., elle dut avoir toute confiance. Du moment que J.T. Maston faisait partie de l'Enco, ne devait-elle pas s'applaudir d'en être la plus forte actionnaire? Ainsi, Mrs. Evangelina Scorbitt se trouvait propriétaire pour la plus grosse part de cette portion des régions boréales circonscrite par le 84e parallèle, rien de mieux. Mais qu'en ferait-elle? Ou plutôt, comment la société prétendait-elle tirer un profit quelconque de cet inaccessible domaine? C'était toujours la question. Et si, au point de vue de ses intérêts pécuniaires, elle intéressait très sérieusement Mrs. Evangelina Scorbitt, elle intéressait le monde entier au point de vue de la curiosité générale. Cette femme excellente, très discrètement d'ailleurs, avait bien tenté de pressentir J.T. Maston à ce sujet avant de mettre des fonds à la disposition des promoteurs de l'affaire. Mais J.T. Maston s'était invariablement tenu sur la plus grande réserve. Mrs. Evangelina Scorbitt saurait bientôt de quoi il retournait, mais pas avant que l'heure fût venue d'étonner l'univers en lui faisant connaître le but de la nouvelle société. Sans doute dans sa pensée, il s'agissait d'une entreprise qui, comme a dit Jean-Jacques, n'eut jamais d'exemple et qui n'aura point d'imitateur, d'une œuvre destinée à laisser loin derrière la tentative faite par les membres du Gun Club pour entrer en communication directe avec le satellite terrestre. Insistait-elle, J.T. Maston, mettant son crochet sur ses lèvres à demi fermées, se bornait à dire « Chère Mistress Scorbitt, ayez confiance !» Et si Mrs. Evangelina Scorbitt avait eu confiance avant, quelle immense joie éprouva-t-elle après, lorsque le bouillant secrétaire lui eut attribué le triomphe des États-Unis d'Amérique et la défaite de l'Europe septentrionale. « Mais enfin, ne puis-je enfin savoir maintenant ?» demanda-t-elle en souriant à l'éminent calculateur. « Vous saurez bientôt, » répondit J.T. Maston, qui secoua vigoureusement la main de sa co-associée à l'américaine. Cette secousse eut pour effet immédiat de calmer les impatiences de Mrs. Evangelina Scorbitt. Quelques jours plus tard, l'Ancien et le Nouveau Monde ne furent pas moins secoués, sans parler de la secousse qui les attendait dans l'avenir, lorsque l'on connut le projet absolument insensé pour la réalisation duquel la North Polar Practical Association allait faire appel à une souscription publique. Effectivement, si la société avait acquis cette portion des régions circumpolaires, c'était dans le but d'exploiter les houillères du pôle boréal.